le triple meurtre de la rue Toulier a fait de Carlos un héros partout où l'on combat l'Occident et ses soutiens. Le chacal s'en délecte. Il a toujours eu pour ambition de rentrer dans l'histoire, de faire jeu égal avec les puissants de ce monde. Au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, Wadi Haddad, son mentor, ne s'y trompe pas. Il sait que la renommée de Carlos assure une publicité formidable à son organisation. Dès l'automne 1975, Haddad confie donc aux Vénézuéliens les commandes de plusieurs attentats. Carlos n'a que 26 ans. En guise de gratitude, il se convertit à l'islam. Et tant pis pour ses convictions communistes. Les Palestiniens ont fait de lui un mythe. C'est sa manière de leur témoigner sa reconnaissance.
Depuis 1960, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, fait la pluie et le beau temps sur les tarifs de l'or noir. En octobre 1973, les pays membres, traditionnellement hostiles aux États-Unis, décident notamment d'une hausse de 70% des prix en réaction du soutien des Américains à Israël lors de la guerre de Kippour. Résultat, le prix du baril quadruple, mettant à l'amende les économies des pays industrialisés et faisant exploser les recettes des États producteurs. C'est le premier choc pétrolier. Mais à l'hiver 75, l'Arabie Saoudite, membre fondateur et plus gros exportateur de pétrole, est prête à faire un geste pour faire baisser l'addition. La Libye de Muammar Kadhafi ne l'entend pas de cette oreille. Le dictateur libyen n'a pas l'intention de tirer un trait sur ses profits. Il fait alors appel au FPLP pour mettre la pression sur l'OPEP.
Le 21 décembre 1975, Vienne, Autriche. Ce matin, le mercure plafonne à 1 degré dans la capitale autrichienne. À quelques jours de Noël, la ville est recouverte d'un manteau blanc. Le froid ne semble pas déranger Carlos et ses hommes qui approchent d'un pas déterminé du siège de l'OPEP. Le commando se compose de combattants issus de l'extrême gauche révolutionnaire allemande et de l'Organisation de libération de la Palestine. Officiellement, ils viennent prendre en otage les ministres du pétrole pour dénoncer l'impérialisme des États-Unis et l'agression sioniste. Officieusement, Carlos doit, pour le compte de Kadhafi, assassiner les ministres saoudiens et iraniens qui tirent les prix du baril vers le bas. Un mélange des genres qui sied parfaitement au chacal. Il peut continuer de croire en son idéal révolutionnaire alors même qu'il se comporte comme un mercenaire.
11h30. Au numéro 10 de la rue Karl Lauger, les journalistes venus assister aux conférences de l'OPEP aperçoivent 5 hommes et une femme pénétrés dans le bâtiment. Avec leurs grands manteaux et leurs sacs de sport, le petit groupe passe relativement inaperçu. À part peut-être ce grand latino-américain qui porte le béret et la barbe à la manière de Che Guevara. Les nouveaux venus demandent aux journalistes de leur indiquer l'endroit où se réunissent les ministres du pétrole. On leur désigne le premier étage, où ils montent sans attendre. Quelques minutes plus tard, le fracas d'une fusillade fait trembler le bâtiment.
Dans la salle de conférence, tout va très vite. Carlos et ses camarades tirent en l'air pour intimider les ministres. Immédiatement, on leur saute dessus pour les désarmer. 3 hommes perdent la vie. Le garde du corps du ministre irakien, un policier chargé de la sécurité du bâtiment et un membre de la délégation libyenne. Carlos finit par reprendre la situation en main. Il sépare les ministres du pétrole en 3 catégories. Amis, neutres et hostiles. Les derniers Il n'hésitera pas à les flinguer si les négociations n'aboutissent pas.
Un peu avant midi, la police autrichienne reçoit un coup de fil du siège de l'OPEP. Il y a une prise d'otage en cours. Une unité d'assaut composée de 8 hommes débarque au pied du numéro 10 de la rue Karl Lueger. Sans attendre, les flics s'introduisent dans le bâtiment et trouvent un cadavre dans l'ascenseur. Ils montent à l'étage, prêts à en découdre. Au sommet des escaliers, ils sont reçus par une volée de balles et une grenade, qui ne fait heureusement aucun mort. Les flics reçoivent l'ordre de battre en retraite. Et les négociations commencent.
C'est Carlos qui traite directement avec les autorités autrichiennes. En plus des 11 ministres du pétrole, son commando retient 55 personnes. De quoi obtenir tout ce qu'il veut. La chancellerie accède à chacune de ses requêtes. D'abord, l'un de ses fidèles lieutenants, touché pendant l'assaut des flics, est hospitalisé avec l'assurance qu'il ne sera pas interpellé. Ensuite, la radio autrichienne diffuse un long communiqué qui reprend les revendications de l'opération. Enfin, un avion de ligne est mis à la disposition du commando. Lendemain matin, Carlos, ses hommes et 42 otages quittent le siège de l'OPEP en bus. Ils se rendent à l'aéroport et s'arrachent du sol autrichien dans le DC-9 qui les y attend.
Le DC-9 et sa précieuse cargaison sillonnent le ciel méditerranéen à la recherche d'un pays qui voudrait bien les accueillir. Mais aucun État ne veut officiellement tendre la main à des terroristes. Même la Libye de Kadhafi fait la sourde oreille. C'est finalement l'Algérie qui leur ouvre les bras. À l'atterrissage, Carlos s'entretient avec les membres les plus éminents du gouvernement algérien. Il est photographié sous toutes les coutures sur le tarmac de l'aéroport. Le monde entier découvre le visage du terroriste. Les Algériens finissent par lui proposer l'asile politique en échange de la libération des otages. Carlos accepte. Bafouant ses engagements envers Kadhafi, il laisse la vie sauve aux ministres saoudiens et iraniens et tourne le dos au FPLP. Désormais, le chacal fait cavalier seul.
En mai 1976, Carlos quitte le FPLP pour monter sa propre organisation terroriste. Le chacal projette de commettre des attentats en se vendant aux plus offrants. Il devient un révolutionnaire professionnel. Mais ses associés tombent un à un. À commencer par Wadi Haddad, son mentor, dont tous les projets virent au fiasco. En 1976, Haddad est même expulsé du FPLP. Il meurt 2 ans plus tard, empoisonné. Le 27 décembre 1978, le président algérien Houari Boumediene, qui a accueilli Carlos à bras ouverts, après la prise d'otage de l'OPEP, meurt à son tour. Le Vénézuélien n'est plus le bienvenu dans le monde arabe. Alors, c'est dans le bloc de l'Est qu'il va chercher l'hospitalité. Les régimes communistes n'en ont pas fini avec la guerre froide. Et Carlos compte bien prendre sa part. En 1979, il s'installe à Budapest.
La Hongrie ne sait pas vraiment quoi faire du chacal. Depuis la prise d'otage de l'OPEP, les autorités hongroises ont promis à l'Autriche de coopérer pour retrouver les terroristes. Mais la Hongrie appartient toujours au bloc soviétique et prend ses ordres directement auprès de Moscou. Or, les Russes protègent le terroriste. Budapest choisit donc de ménager la chèvre et le chou. Carlos est libre d'aller et venir. En échange, il s'engage à ne pas préparer d'attentat depuis le sol hongrois. Marché conclu.
Carlos est aux anges. Il est à l'abri du rideau de fer qui isole l'Europe communiste de l'Europe occidentale. En couple avec Magdalena Kopp, une ressortissante allemande qui fabrique des faux papiers pour son organisation, il fête sa 30e année dans un bar cubain de Budapest. Il profite des plaisirs qu'offre la Hongrie, plus souple que ses autres voisins communistes. Grâce au contrat juteux que sa réputation lui permet de décrocher, il vit comme un prince. Carlos a beau être révolutionnaire, il n'a pas perdu le goût de ce luxe dans lequel il a grandi. Et pour continuer à mener grand train, il mange à tous les râteliers.
En 1981, Nicolae Ceaușescu, le dictateur roumain, confie au Chacal la mission d'assassiner certains de ses opposants disséminés en Europe occidentale. Il le charge également de faire sauter Radio Free Europe. Financée par les États-Unis, la station, basée à Munich, diffuse des programmes de propagande dans les pays de l'Est. Carlos empoche $1 million et mène à bien les deux opérations. La même année, Kadhafi se résout à faire de nouveau appel à lui. Le Libyen veut se débarrasser du président égyptien Anwar al-Sadat, qui a signé un traité de paix avec Israël sous l'impulsion des États-Unis. Mais le djihad islamique coupe l'herbe sous le pied de Carlos. Le 6 octobre 1981, quatre djihadistes abattent le dirigeant égyptien lors d'un défilé militaire. Le Chacal peut dire adieu à l'argent du contrat.
Carlos décide alors de faire chanter le Koweït, dont le nouvel émir refuse de le financer. En 1982, le Chacal envoie Bruno Breguet, l'un de ses lieutenants, et Magdalena Kopp à Paris. Tous deux doivent poser une bombe dans le jardin de l'ambassadeur koweïtien. Magdalena n'a pas l'habitude de se rendre sur le terrain. Sa spécialité à elle, ce sont les faux papiers. Mais Carlos n'a personne d'autre sous la main. Le 16 octobre 1982, elle est arrêtée en même temps que Bruno Breguet à bord d'une voiture bourrée d'armes et d'explosifs. Carlos perd ses camarades les plus proches et il est prêt à tout pour les faire libérer. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
Le 25 février 1982, l'ambassade de France à La Haye, aux Pays-Bas, reçoit un courrier signé Carlos. Adressé au ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, il réclame la libération de Magdalena Kopp et Bruno Breguet dans un délai de 30 jours. En cas de refus, Carlos promet de faire la guerre à la France. Les autorités françaises prennent la missive très au sérieux. Non seulement les empreintes que Carlos a laissées en guise de signature ne laissent aucun doute sur son authenticité, mais les flics savent également de quoi le terroriste est capable. Le meurtre de deux de leurs collègues 7 ans plus tôt, rue Toulier, leur reste en travers de la gorge. Et l'attentat du drugstore Publicis, qui visait précisément à appuyer une prise d'otage à l'ambassade de La Haye, a marqué les Parisiens au fer rouge. Les autorités décident d'alléger les chefs d'inculpation de Kopp et Breguet. Un compromis pour apaiser le terroriste sans perdre publiquement la face en cédant à ses menaces.
Mais Carlos ne s'en contente pas. Il profite de ses liens récents avec la Syrie pour organiser des attaques sur le sol français. Comme toujours, le Chacal joue sur les deux tableaux. D'une part, il veut faire pression sur Paris pour obtenir la libération de Kopp et Breguet. D'autre part, il agit pour le compte du régime syrien à qui la France s'oppose dans la guerre civile au Liban. Grâce à l'argent de la Syrie, Carlos finance sa vendetta personnelle.
Le 29 mars 1982, le Capitole part de la gare de Paris-Austerlitz en direction de Toulouse. Vers 20h40, le train approche de la Jonchère Saint-Maurice, une commune située à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Après le passage d'un pont, le conducteur entend une déflagration. Il stoppe immédiatement les machines. À sa descente de la locomotive, il fait face à une vision apocalyptique. Une bombe a soufflé entièrement la voiture numéro 18. Le wagon n'est plus qu'un amas de tôles enchevêtrées. 5 morts et 28 blessés sont à déplorer. Un mois plus tard, le 22 avril, quelques minutes avant le début du procès de Magdalena Kopp et Bruno Breguet, une voiture piégée explose devant le 33 de la rue Marbeuf, dans le 8e arrondissement de Paris. Bilan, un mort et 68 blessés. Malgré tout, les magistrats ne se laissent pas impressionner. Le tribunal condamne Kopp et Breguet à des peines plus lourdes que ce que réclamait le procureur de la République.
Dans sa planque de Budapest, Carlos fulmine. Puisque les autorités françaises veulent jouer à ce petit jeu-là, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête en si bon chemin. Toujours avec le soutien de la Syrie, il s'en prend à l'ambassade de France à Beyrouth. Il jette son dévolu sur une secrétaire pour transmettre ses amitiés à l'Hexagone. Le 24 mai 1982, un peu avant 8 heures, Anne Kosmidis grimpe dans sa Renault 12. Elle prend la direction des locaux de la représentation diplomatique, sans se douter qu'elle transporte 50 kilos d'explosifs. À peine a-t-elle passé le portail de l'ambassade que la bombe se déclenche. L'explosion fauche 38 personnes, dont 11 ne se relèveront jamais. Quand il s'agit de se battre pour sa propre cause, Carlos ne lésine pas sur les moyens.
Les Hongrois commencent à trouver leur hôte un peu trop handicapant pour leurs relations diplomatiques. Ils finissent par avoir la bénédiction de Moscou pour mettre Carlos à la porte. Fin 82, le Chacal trouve refuge à Bucarest, dans la Roumanie de son mécène Nicolae Ceaușescu. Depuis la capitale roumaine, il poursuit ses assauts pour faire libérer Kopp et Breguet. 31 décembre 1983, 19h42. Le TGV Paris-Marseille est coupé en deux par l'explosion d'une bombe placée dans une mallette. 20 minutes plus tard, en gare Saint-Charles, dans la cité phocéenne, les consignes sont pulvérisées par une déflagration qui creuse un cratère d'un mètre de profondeur dans le sol. Les deux attentats emportent 5 personnes et font 34 blessés. Marseille n'a pas été choisie par hasard par le Chacal. Son maire n'est autre que le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre.
Carlos a toujours su marquer les esprits. Ces attentats perpétrés la veille de la Saint-Sylvestre, personne ne pourra les oublier. Il a déjà appliqué la recette 10 ans auparavant, en tentant d'assassiner le PDG de Marks & Spencer à Londres, à 2 jours de la nouvelle année. C'est une guerre psychologique qu'il mène à la France, et ce n'est pas lui qui cédera le premier. Le 1er janvier 1984, il transmet à l'agence France-Presse une lettre dans laquelle il revendique les attentats en se cachant derrière l'organisation qu'il a fondée, comme il le fait à chaque fois. Personne n'est dupe, mais Carlos se croit intouchable. Et il l'est, pour le moment.
Pour les autorités françaises, la coupe est pleine. La DST, la direction de la surveillance du territoire, reprend la traque débutée en 1975, après la fusillade de la rue Toulier. Un homme, en particulier, se lance aux trousses de Carlos. Philippe Rondeau, nom de code Max. Un agent secret qui ne trouvera le repos qu'après avoir mis Carlos derrière les barreaux. Et, en ce milieu des années 80, il compte sur la décadence du bloc soviétique pour lui faciliter la tâche.